Hey honey! Comment ça va aujourd'hui?
Bah écoute, ma foi, ça va super et toi?
Trop bien! On continue ce projet de fou avec vous. On est trop heureuse.
Je suis trop, trop, trop contente. Franchement, on a le sourire. Si vous pouviez voir ça, on a le sourire. Waouh!
Vous verrez ça bientôt quand on trouvera le temps de faire la vidéo qui va avec.
Ouais.
Du coup. Sans plus tarder, je vous raconte ce dont on va vous parler tout au long de cet épisode qui s'annonce incroyable. Le thème du jour, mon date idéal.
Ouais.
Au départ, on était parti sur « Raconte-nous ton premier date idéal ». Mais finalement, en réfléchissant, on s'est dit qu'on allait étoffer un peu le sujet. Et donc, on est parti juste sur le rendez-vous idéal. Pour que toi qui tombes sur ce podcast, que tu sois un homme, une femme, voilà, tu tombes sur quelqu'un qui te plaît, tu te dis mais qu'est-ce que je pourrais lui proposer? Voilà, et aujourd'hui on va toutes les deux vous raconter ce qu'on aurait aimé qu'on nous propose ou ce qu'on aurait aimé proposer aussi. Donc voilà, on va vous raconter un peu tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, on va aller un peu plus loin et on va découper ce podcast en 8 parties, pas de panique. Tout va bien se passer, prenez votre meilleure boisson chaude ou votre boisson fraîche en fonction de la saison. Let's go. Les 8 parties seront les suivantes. On va d'abord vous raconter un peu, vous faire notre storyline amoureuse à chacune. Voilà, parce que c'est aussi important que on t'explique d'où on vient et de quel point de vue on parle tant Natacha que moi. Voilà, parce qu'on a des histoires assez différentes. Ensuite, on va chacune vous raconter notre premier date idéal, je vous redirai ça, mais voilà, on parle bien du premier, du tout premier date. Voilà, ensuite on va faire toute une partie sur un peu, si on devait définir, aller un peu plus loin dans le au-delà du premier date, qu'est-ce qu'on attend, un peu les critères du date idéal selon nous. Voilà, ce sera que nous et évidemment on abordera que certaines choses et pas tout, et vous pourrez nous dire d'ailleurs dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Voilà, on continuera avec « Qu'est-ce que tu penses des gros dates ?» Je vous expliquerai ce qu'on appelle des gros dates. Une 5e partie sur « Que penses-tu des grosses conversations ?» Donc des conversations importantes avec des enjeux émotionnels, d'engagement, etc. Voilà, « Que penses-tu des rapprochements ?» au premier date et après. Et 2 dernières parties sur « À votre avis, est-ce que les attentions et les dates ont une date d'expiration ?» Et enfin, on vous racontera notre date idéal. Voilà, une fois que le premier date est passé, qu'avec la fameuse personne, tout va pour le mieux. Quel serait votre moment idéal à partager avec cette personne? Voilà, on espère que le programme vous plaît. Et sans plus tarder, Natacha, raconte-nous ta storyline amoureuse.
Alors, ma storyline amoureuse, figurez-vous, elle commence toute petite. Toute petite, car j'ai toujours été entourée dans ma famille de couples très anciens. Et quand je vous dis très anciens, quand je demandais « Vous vous êtes rencontrés, vous aviez quel âge ?» On me sortait des « On s'est rencontrés, on avait 6 ans. » Et moi, j'étais là en mode « Oh, waouh, ok !» Ça veut dire que l'homme avec lequel je vais passer le reste de ma vie, je peux le rencontrer à n'importe quel moment. Et d'une part, je m'étais presque mis la pression de me dire « Ok, le prochain que je rencontre, ce sera avec lui. » que je passerai ma vie. Et donc, du haut de mes 6 ans, à l'école primaire, je m'étais trouvé un amoureux. Et je l'aimais vraiment bien. Et moi, dans ma tête, ça y est, c'était lui.
C'est trop cute. Et ensuite ?
Ensuite, nous avons malheureusement déménagé. Et alors, j'avais 6 ans en 2004. Donc, comment vous dire que les téléphones portables, c'était absolument pas ça. Et encore moins à cet âge-là. On n'avait pas de réseaux sociaux. Encore moins à cet âge-là. Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, on a déménagé et j'ai simplement perdu le contact avec mon amoureux de l'époque. Arrivé à l'école où on venait de déménager, pareil, je me suis retrouvée un deuxième petit amoureux. Arrivé au collège, ça s'est arrêté. Tout du long du collège, je n'ai pas eu de relation. Et au lycée, j'ai rencontré celui qui aujourd'hui est mon dernier ex en date. On s'est fréquenté pendant 1 an et demi et ça s'est très mal terminé. Quand je dis que ça s'est très mal terminé, je parle d'une rupture qui n'a pas du tout été gérée. J'ai reçu un jour un message et je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, au bout 1 an et demi de fréquentation, c'est compliqué. Surtout que Pour ceux qui ont écouté notre premier épisode, vous savez que je suis née dans une famille catholique, que je me suis toujours crue très pratiquante, bien qu'au final, j'étais loin d'être très pratiquante. Et que j'ai l'impression que c'est important que je précise que j'ai grandi en ne voulant pas me marier et en ne voulant pas avoir d'enfants. Pour moi, ces deux choses-là, j'en voulais pas. J'en voulais pas, c'était pour moi le mariage, c'était un bout de papier qui disait que t'appartenais à un tel, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai tellement de fois posé la question à mes parents, à mes grands-parents, à quoi ça sert le mariage, c'est quoi cette histoire de mariage, je comprends pas. Ils ont tellement essayé de me l'expliquer, j'ai jamais compris le principe. Donc je ne voulais pas me marier et je ne voulais pas d'enfants. Et on m'avait expliqué à l'époque que normalement quand t'es catholique, tu dois attendre le mariage. Mais moi, comme je ne voulais pas me marier, eh bien je n'avais rien à attendre. On a eu, ma foi, une histoire avec ses hauts et ses bas. Mais cette histoire, moi, je l'aimais comme elle était. Et donc, quand j'ai reçu ce message, bien évidemment, j'étais effondrée. Mais en vrai, je m'en suis plutôt bien sortie, jusqu'à ce qu'une de mes meilleures copines me dise « Nat, je crois qu'il t'a remplacée. » Ah ! Au bout de 10 jours. Là, ça a été la descente au fin fond du gouffre. J'ai touché le fond. J'ai fait ce que certains décrivent comme étant une dépression. Je ne suis pas médecin, je ne mettrai donc pas de mots dessus. Mais la raison pour laquelle les gens me disent que j'ai fait une dépression, c'est que pendant 6 mois, je n'ai pas quitté ma maison. Je suis restée enfermée. Je pleurais matin et soir. Je ne voyais plus du tout l'utilité de vivre. Quand je faisais ma prière le matin, je disais « Seigneur, fais que ce soit ma dernière journée ». Quand je me couchais le soir, je disais « Seigneur, fais que je ne me réveille pas demain matin. Prends-moi ce soir, ramène-moi à la maison, j'ai plus rien à faire ici ». Ça a été une grosse catastrophe. Hein. Mes meilleures copines à l'époque, j'étais la première à avoir un cœur brisé, donc aucune ne savait vraiment comment gérer. Elles ont essayé, mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait rien ni personne d'autre que Dieu qui pouvait m'aider. Alors ce qui est bien, c'est que cette grosse peine de cœur m'a énormément rapprochée de Dieu. Et c'est là notamment que j'ai trouvé beaucoup d'influenceurs américains qui sont dans la foi et qui ont pu, à travers leur contenu, me guider et me ramener de manière beaucoup plus proche à Dieu. À ce moment-là, j'ai découvert que je pouvais avoir une Bible et que je pouvais lire la Bible. Je pensais à l'époque que c'était un truc pour les prêtres, les Bibles. Je pensais qu'on ne pouvait pas avoir de Bible chez soi. Je pensais que c'était un livre de l'Église. Eh bien, je me suis bien trompée parce que même nous, chez nous, on en avait une. Bon, la Bible qu'on avait à la maison, elle est en portugais. Je peux lire le portugais, c'est pas un problème. Mais ma langue maternelle, à moi, c'est le français. J'ai donc demandé à mes parents de m'acheter une Bible en français. Et depuis, eh bien, j'ai pris quelques décisions assez drastiques. Aujourd'hui, ma vision sur le mariage et les enfants a complètement changé. Aujourd'hui, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Le Seigneur a vraiment fait un changement immense dans mon cœur, surtout. Et ouais, depuis, bah, je lis encore ma Bible, j'étudie, etc. Mais aujourd'hui, je suis depuis cette fois-là célibataire. Car...
C'était quand la rupture ? Parce que t'as pas précisé la date de la rupture, juste pour qu'on soit tous...
Avril 2017, si je ne me trompe pas.
Et donc, ça fait écho à ce qu'on vous disait dans notre premier podcast.
Ouais, quand on s'est rencontrés, j'étais plus bas que terre. Ça n'allait pas du tout. Donc ouais, c'était ma petite storyline, puisqu'aujourd'hui, le prochain qui rentre dans ma vie, c'est pour le mariage, sinon rien.
Bah merci, Natacha. Moi, pour vous raconter mon expérience, elle est un peu différente. Je définirais mon expérience amoureuse comme un cycle. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs hommes qui sont rentrés dans ma vie depuis 2010. Et à chaque fois, c'était de très jolies relations qui se sont un peu effondrées. Et à chaque fois, il a fallu que je remonte la pente. Voilà, il y a eu 3 histoires longues. La première de 6 ans et les 2 autres de 2 ans chacune. Voilà, et puis j'ai eu d'autres petites expériences beaucoup plus courtes. Mais voilà, il y en a 3 qui ont vraiment... compter et structurer ma vie amoureuse. Voilà, que vous dire, la dernière grosse rupture en date de septembre 2023. C'était ma dernière relation de 2 ans avec quelqu'un qui, je pensais sincèrement, serait l'homme de ma vie. Voilà, avec qui je me marierais, avec qui je ferais des enfants. Et bah, il se trouve que la relation s'est arrêtée pour plein de raisons voilà, qui se justifient sans doute voilà, avec le recul, on se dit que c'est mieux comme ça, mais sur le coup, moi, ça m'a fait très mal. Je pense aussi avoir traversé une sorte de dépression parce que, pareil, j'ai eu la sensation de plus vouloir que le soleil se lève le lendemain. Et voilà, je me demandais pourquoi j'étais là et qu'est-ce qui... Enfin, je me posais la question, mais qu'est-ce qui m'attend pour la suite ? Parce que justement, bah, j'avais un peu perdu cette raison de vivre et cette personne avec qui je m'étais tellement projetée et j'avais tellement envisagé que ce serait le bon parce qu'on se ressemblait sur beaucoup de points, parce qu'on avait fait les mêmes études, parce qu'on avait le même style de vie. En même temps, on avait fait les mêmes études, mais on avait aussi une part de nous. Alors moi, je suis plutôt artiste, mais lui, il avait une part de lui-même qui était en dehors de ce milieu du droit, puisqu'on était tous les deux juristes. Et voilà, c'était un peu ce que je pensais être l'idéal pour moi. Et finalement, cet idéal, bah, s'est arrêté un peu brutalement, parce que c'est moi qui suis partie, je dois le dire. Mais c'est pas parce qu'on est celui ou celle qui part qu'on ne souffre pas. Je suis partie parce que je m'y retrouvais plus, parce que je me sentais pas... En fait, je me sentais pas dans une relation parce qu'il avait plus de temps à m'accorder. On se voyait de moins en moins et quand on se voyait, de toute façon, on passait pas de super moments parce que son esprit était ailleurs, préoccupé par le travail. C'est pour ça que je disais qu'il y a sûrement de très bonnes raisons parce que, voilà, c'est pas... Enfin, en tout cas, de ce que je sais, c'est pas... Voilà, il a pas été voir ailleurs, c'est pas le sujet, c'est juste, voilà, il a été... un peu pris dans le début de sa carrière et ça se comprend, mais voilà, du coup il n'y avait plus trop de place pour nous et pour moi, et en fait c'est moi qui ai décidé de partir. Le problème c'est qu'à l'époque j'avais pas du tout confiance en moi et attention, pour employer un mot qui est très à la mode en ce moment, je pense que j'étais dans une phase de dépendance affective et du coup quand je suis partie sur un peu un sursaut de non, il faut que je pense à moi, oui, mais j'avais pas les armes émotionnelle et dans mon caractère pour me dire non, tu es bien avec toi-même. Et il a fallu que j'apprenne à être bien avec moi-même, et ça on en reparlera, je pense qu'on pourra faire un épisode de podcast là-dessus, mais voilà, j'ai dû apprendre un peu dans la souffrance et un peu dans la douleur à être bien avec moi-même, et spoiler, j'ai réussi. Voilà, et merci ma chérie. Voilà, et pour finir cette storyline, aujourd'hui, il faut que je vous dise que j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça se passe merveilleusement bien. Mm-hmm. Et voilà, j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Voilà, si tu passes par là, je t'envoie plein de bisous et de je t'aime. Bref, j'arrête là le moment mignon. Mais voilà un peu ma storyline. Plusieurs histoires qui sont toutes un peu déroulées sur le même schéma, très très bien, puis à un moment où les choses basculent et sans que je comprenne vraiment pourquoi les choses basculent et impossible de rattraper parce que pour sauver une histoire il faut être deux, et si j'étais peut-être seule à ramer dans le bateau, donc ou on ramait peut-être pas dans le même sens, voilà, pour pas leur jeter la faute, peut-être qu'on ramait juste pas dans le même sens.
Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, car avec le recul, j'arrive à voir comment, à l'époque, mon ex a vraiment essayé de ramer tout ce qu'il a pu ramer. Et qu'en fait, en face, il avait juste pas la réponse qu'il souhaitait de ma part. Et aujourd'hui, j'arrive complètement à comprendre pourquoi il est parti. Et d'ailleurs, vraiment, merci. Merci d'être parti. Et je ne le regrette absolument pas, dans le sens où cette rupture, oui, elle a été atroce pour moi comme pour toi.
Ouais.
J'ai été laissée et tu as décidé de laisser. Mais aujourd'hui, on arrive à voir comment c'était pour le meilleur.
C'est clair. Et sur ces belles paroles, on va enchaîner avec notre deuxième sujet, parce que le sujet du jour n'est pas les ruptures et comment les gérer, mais notre date idéal.
Oui.
Et donc, la deuxième partie va être consacrée, on va vous raconter chacune notre premier date idéal. Je m'explique un tout petit peu. En gros, on va partir du principe, toi et moi, ma chérie, qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Voilà. Et là, on va vous décrire comment on aimerait que le premier rendez-vous se passe, avec tout ce que ça implique comme limite. Le premier rendez-vous, on ne connaît pas la personne. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, vraiment, juste, comment se passerait le premier date ? Nat, c'est à toi.
Ok, Alors, pour moi, mon premier rendez-vous idéal, il commence avec obligatoirement un chrétien. Comme Lisa a dit, on part dans le principe où on a déjà rencontré la personne. Donc, il ne s'agirait pas, par exemple, d'un date Tinder, dans notre cas à nous ici. Ce qui veut dire que je sais qu'en face de moi, j'ai un croyant pratiquant. Pour moi, c'est le strict minimum. Il doit être croyant pratiquant. S'il n'est pas croyant pratiquant, malheureusement, nous n'irons pas en date. Je n'ai pas de temps à perdre, si je puis me permettre de parler comme ça. Ça paraît très hautain. Ça peut paraître très strict, ça peut paraître très fermé d'esprit, mais aujourd'hui, je sais quels sont mes objectifs de vie. Je sais où est-ce que je souhaite aller. Et si tu ne peux pas, d'une manière ou d'une autre, m'aider à aller où je veux aller, dans ce cas, je préfère y aller seule. Aussi, vraiment aussi strict que cela puisse paraître. On m'a toujours dit, Natacha, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Et je comprends cette phrase aujourd'hui. Donc, pour ma part, mon premier rendez-vous idéal, on va dans un café de préférence. Voilà, café, salon de thé, quelque chose de très cosy, d'ambiancé, mais vraiment avec suffisamment de calme pour qu'on puisse papoter, s'entendre, etc. Et ouais, apprendre à se connaître à travers Dieu. Car moi, ma relation, plus tard, je la souhaite centrée sur Dieu. Donc, obligatoirement, mon premier rendez-vous idéal se fera avec Dieu. Voilà, c'est pas grand-chose, mais pour un premier rendez-vous, pour essayer de comprendre qui j'ai en face de moi, je veux comprendre quelle place a Dieu dans sa vie. Pour le premier, c'est tout ce qui compte pour moi.
Eh ben merci, et moi je trouve ça cool. Déjà, t'excuses pas parce que voilà, ça fait partie aussi de notre identité dont on vous a parlé dans notre précédent podcast. Voilà, Natacha, la religion a une grande place dans ta vie et moi je dis que c'est un sujet de conversation comme un autre, c'est-à-dire que du coup, comme Natacha vous l'a dit, elle et moi, on n'a pas eu d'expérience via les applications de rencontres. Donc voilà, si jamais certains ont eu ce genre d'expérience via des applications de rencontres, dites-nous en commentaire ce que vous avez expérimenté, vous, de votre côté, parce que nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a vécu et ce n'est pas quelque chose qu'on a souhaité vivre non plus. Voilà, c'est un choix aussi et on a la chance d'avoir pu faire ce choix jusqu'à présent. Ouais. Enfin, en tout cas, on le vit comme ça. Voilà, peut-être du coup, ce qu'on vous raconte, c'est qu'en fait, nous, on a rencontré quelqu'un. En tout cas, l'expérience qu'on vous propose aujourd'hui, c'est on rencontre quelqu'un dans un certain contexte. Voilà, ça peut être, par exemple, pour toi, à la messe ou dans ta communauté religieuse ou, je sais pas, moi, tu parlais de l'équitation, dans ton centre équestre. Voilà, et pour ma part, moi, ça peut être quelqu'un que je rencontre, je vais vous en parler, du coup, dans le milieu du spectacle, par exemple. Voilà, c'est des gens qu'on va rencontrer qui vont intégrer notre cercle de connaissances, mais via une activité ou une passion déjà en commun. Et du coup, ça donne une première approche qui est peut-être différente de ce que toi qui nous écoutes, si tu es passé par une application de rencontre, tu as peut-être vécu d'autres choses. Donc voilà, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires et voir si ce qu'on dit fait sens pour toi aussi. Voilà, alors moi, mon premier date idéal, je crois que j'ai eu la chance de le vivre avec mon compagnon actuel, donc merci à toi pour ça. Mais c'est à force de réflexion que je me suis rendu compte que oui, c'était l'idéal. Comme toi, je pense que ce serait dans un café. Je me suis rendu compte que pour un premier date, en tout cas un premier moment qu'on passe à deux, voilà, en ayant bien en tête qu'on s'entend bien sur un certain nombre de sujets, mais qu'on aurait envie d'aller voir si ça peut aller plus loin, je trouve ça plus agréable de le faire dans un contexte qui n'est pas trop formel. Par formel, j'entends un dîner au restaurant. Parce que le dîner au restaurant peut être long. Et voilà, si finalement, au gré de la conversation, on se rend juste compte que ça ne marchera pas pour cet objectif-là. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur du malaise et j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Voilà, tu t'es rendu compte pendant le plat que peut-être que ça collerait pas pour cette destination amoureuse-là, hein, on va dire. Il faut attendre le dessert. Et là, qu'est-ce que tu te racontes pendant les 20-30 minutes qui restent où tu manges ton dessert,
n'est-ce pas? Et paradoxalement, il faut savoir qu'avec Lisa, on est très facile niveau conversation. Donc, pour que Lisa dise qu'elle a du mal avec le malaise, etc., et devoir meubler la conversation, alors que techniquement, c'est quelque chose que nous savons très bien faire, c'est que, en effet, ça peut quand même exister, même avec des gens qui savent meubler la conversation.
C'est ça. Donc, voilà. Donc, moi, j'avoue que le premier date, j'aime bien aimé avec mon chéri que ça se fasse dans un café dans l'après-midi. Parce que voilà, le côté on va juste prendre un café, déjà ça évite aussi le côté verre et le côté alcool. Non pas que je ne consomme pas d'alcool, voilà, je ne suis pas contre un cocktail, contre un bon verre de vin, une coupe de champagne, voilà. Mais au moins il y a un côté aussi, on est apte à la discussion, il n'y a pas de choses qui viennent voilà, enivrer le cerveau. Je trouve ça important dans un premier date d'être pleinement maître de ses moyens. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens.
Je suis entièrement d'accord.
Voilà. Donc voilà. Donc, pour moi, le premier date, plutôt dans un café, plutôt l'après-midi. Voilà, sur un temps un peu pas trop formel où, si ça se passe bien, mais libre à nous de poursuivre cette conversation dans le cadre d'un verre, dans le cadre d'un resto. Avec mon chéri, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est... Il m'a proposé. Voilà, il a pris l'initiative. Et ça, je dois dire, homme capable, vraiment. Il a proposé qu'on se fasse un date. On a calé le jour du date parce que moi, à ce moment-là, je n'étais pas sur Paris. Donc voilà, il a fallu attendre que je remonte sur Paris et que j'ai du temps libre puisque je travaille aussi, puis lui aussi. Donc voilà, il fallait attendre qu'on ait du temps. Et on a fait ça sur un après-midi, on a été prendre un café et puis après on était tous les deux comédiens sur un spectacle et il se trouve qu'on jouait ensemble le soir qui suivait. Et donc c'était super parce que on avait ce moment un peu à nous, on avait vraiment pris le temps, hein. Je pense qu'on avait pris 2-3 bonnes heures, donc voilà, pour un café c'est largement suffisant, pour avoir le temps de se parler, de se rapprocher, de voilà, faire un peu tomber les barrières qui peuvent un peu exister au début, c'est normal. Et spoiler, les barrières sont tombées. Et puis, au cas où il y aurait eu un malaise, on pouvait quand même poursuivre, mais en retrouvant un peu nos passions, en retrouvant un peu notre univers. Et je suis ravie de vous dire que les barrières sont tombées et que tout s'est super bien passé, que du coup on a pris, je pense, encore plus de plaisir à ce moment-là à aller partager la scène ensemble sur le spectacle dans lequel nous étions en commun. Donc dans un café avec une possibilité de poursuivre après, mais une possibilité et pas une contrainte et une obligation. Voilà pour nos premiers dates. Voilà, encore une fois, on vous l'a dit, mais c'est vraiment, on parle du tout premier date, voilà, avec toutes les limites qu'il y a au départ dans une relation. Maintenant, je vous propose une partie où en fait on va un peu se poser des petites questions pour déterminer un peu les critères de ce qui serait pour nous un date idéal. Donc là, on avance, on dépasse le premier date se passe bien. Et ok, qu'est-ce que nous, on attend de la suite avec cette personne qui nous plaît, qu'on a rencontrée, ça y est, on a cassé la glace du premier rendez-vous. Voilà, donc je vous propose de nous lancer à corps perdu, dirais-je, dans cette catégorie. Et du coup, Natacha, pour toi, un date idéal, ce serait quand ? À quel moment dans la journée tu aimerais avoir des dates réguliers avec ton partenaire ?
De préférence dans l'après-midi. Vraiment, je suis team après-midi. Ça peut être le tout début d'après-midi, juste après le déjeuner, jusqu'à, disons, 18h, 18h30. Mais moi, je suis vraiment team après-midi. Je suis quelqu'un de la journée. J'aime le soleil. Donc ouais, moi, ce serait en plein après-midi.
Ok. Moi, j'avoue que c'est un peu la même chose. Donc du coup, ça rejoint ce que je vous disais pour le premier date. Je trouve que le moment du café, c'est le moment idéal pour avoir une conversation en pleine conscience, avoir le temps, avoir l'impression d'avoir du temps devant soi. Voilà. Après, le temps passant, les soirées au resto, quand même, j'avoue que j'aime bien, avec un moment un peu apéro aussi. Voilà, j'avoue qu'il y a team apéro ici, les gars. Voilà. Mais pour le premier date, clairement, après-midi, ça, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, ce sera un non négociable. Et puis, au fur et à mesure, déborder un peu sur la soirée, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et pour ce qui est du lieu, genre, où vois-tu ton date idéal ?
Excellente question. Personnellement, j'ai un amour fou pour la nature. Donc, de préférence, un endroit où on peut apprécier la nature. Par exemple, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Donc, autour de moi, il y a beaucoup de nature. Donc, soit, par exemple, si c'est un homme qui aime les chevaux, qui peut-être en a un, pourquoi pas partir en balade à cheval ?
C'est si romantique !
N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? J'aime beaucoup tout ce qui est zoo, aquarium, là où on peut vraiment voir des animaux ou vraiment être entouré de nature. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les zoos et les aquariums ne sont pas appréciés de tous pour des raisons de bien-être animal. Nous ne partirons pas sur ce sujet-là. Mais je parle bien évidemment des réserves où on sait que les animaux sont traités correctement, sont nourris et appréciés à leur juste valeur. Oui, ou une balade dans un parc, quelque chose avec de la nature. Ouais, ce serait ça mon endroit favori pour un date.
C'est très cohérent. Et moi, ça ne surprendra peut-être pas mes amis qui nous écoutent ou ma famille. Mais pour les nouveaux ici, qui j'espère seront de plus en plus nombreux, enfin que vous serez de plus en plus nombreux, je suis une amoureuse inconditionnelle de Paris. J'ai la chance d'habiter à Paris depuis 2 ans, 3 ans. Voilà, et le temps passe, c'est fou. Et je suis amoureuse de la ville de l'amour, je dois le dire. Et du coup, pour moi, le date idéal, il y a plein d'endroits hein, qui peuvent être beaux, mais c'est vrai qu'une balade le long des quais de Seine, je trouve ça, quand il fait beau, évidemment, ce qui est assez rare sur Paris.
Oui, parce que sous la pluie torrentielle, c'est pas le même effet.
C'est pas le même effet, mais bon, il faut apprendre à danser sous la pluie, paraît-il. Donc,
n'est-ce pas ? Ça peut être très romantique. Hein.
Voilà, et pour la fan de comédie musicale que je suis, I'm singing in the rain.
N'est-ce pas ?
Voilà, tout va bien, enfin... Pluie ou pas, on ira, mais allez, partons du principe, un beau coucher de soleil, le long des quais de Seine, je pense que j'aime particulièrement Paris à ce moment-là, et à l'heure où on vous enregistre ce podcast, nous sommes au mois d'août, toujours.
Tout à fait.
Et bon, c'est pas l'été le plus caniculaire que nous ayons connu, en tout cas à Paris, pour l'instant, mais il fait suffisamment beau pour que ce soit agréable et qu'on ait des jolis couchers de soleil sur la Seine avec une vue sur la Tour Eiffel, traverser les ponts, aller à Montmartre. Moi, c'est Paris, c'est mon cadre idéal, et évidemment, et j'ai déjà eu la chance de le faire encore avec mon chéri, un date à Disneyland.
Absolument, mais bien évidemment. Voilà. Par contre... Je ne sais pas si je souhaite rajouter ça dans le podcast ou pas, on verra au montage. Je ne sais pas si c'est fixé une limite, je ne sais pas si c'est fait une promesse. L'homme qui m'emmènera à Disney, je l'épouserai.
En effet, c'est un engagement, madame.
Donc, comment te dire que le date à Disney, ce sera pas le premier.
On parlait pas du premier, hein. On est sur où ça ? Où serait un date
Ah mais bien évidemment, par contre, si c'est le bon, un date à Disney, absolument.
Super. Une troisième question, du coup, dans cette partie sur un peu les critères du date idéal. Sucré ou salé ?
Plutôt sucré. À ma grande surprise, j'ai très longtemps été team salé. Mais aujourd'hui, je dirais plutôt sucré.
On parle de la nourriture. Hein. Je préfère préciser.
Moi, ça me paraît logique.
Et ben moi, team apéro, hein, donc salé. Clairement, le petit pique-nique. Mon chéri se reconnaîtra, j'espère. Mais j'avoue que le pique-nique, la bouteille de vin, l'apéritif et bon, éventuellement le dîner, si on est à plus du premier date, j'avoue que ouais, ça me fait fondre assez vite.
Pas mal. Moi, je suis team goûter et toi, t'es team apéro. On se suit, hein.
Comme le premier date, j'ai dit plutôt dans un café, j'avoue que une petite part de gâteau avec mon café ou mon thé, je dis pas non plus, je suis une grande gourmande, ne l'oublions pas, mais disons plutôt team apéro avec le temps qui passe, on va dire. Et dernière catégorie, est-ce que tu es plutôt ouverte à la spontanéité ou tu préfères quelque chose de très organisé de la part de ton partenaire, ou même si toi, tu organises le date, dis-nous tout.
J'ai une préférence pour l'organisation. Si mon partenaire souhaite me surprendre ou faire avec de la spontanéité, juste qu'il me prévienne de garder telle journée. Le strict minimum, c'est tel jour, prévois rien, je t'emmène faire quelque chose ou je t'emmène en date, voilà. Si tu souhaites ne pas m'en dire plus, ne m'en dis pas plus. Je prendrai la surprise avec un grand plaisir. Mais c'est vrai que sur long terme, il peut m'arriver de trouver la spontanéité un peu égoïste. Car aujourd'hui, étant célibataire, ayant mon propre revenu, ayant ma voiture, je peux me permettre d'être spontanée. Mais j'arrive à voir comment être spontanée, ça ne regarde que moi. C'est-à-dire que si là, je décide de me lever et d'aller au cheval, ça ne va impacter personne d'autre. Si là, je décide de me lever et de passer le reste de ma journée à faire les boutiques, ça ne va impacter personne d'autre. Quand on est dans un couple, on est deux. Et si d'un coup d'un seul, je me lève et que je me dis tiens, j'ai envie de faire ça, et que je regarde mon partenaire et que je lui dis, viens, on va faire ça. Si mon partenaire a quelque chose de prévu, j'arrive à voir comment il va devoir tout réorganiser de son côté pour moi. Alors, il y a des personnes à qui ça fait le plus grand des plaisirs de réorganiser leur journée pour leur partenaire. Mais c'est vrai que sur long terme, j'ai une grosse préférence pour l'organisation.
Et ben moi aussi, sur ça, on se ressemble. Disons que je suis quelqu'un dans ma vie d'assez organisé, je planifie beaucoup de choses jusqu'au moment où je vais faire le ménage, enfin voilà, jusqu'à des choses qui peut-être n'auraient pas besoin d'être planifiées, mais moi j'ai, voilà, ça me rassure d'avoir un planning assez fixe, notamment en semaine. Voilà, et du coup, c'est vrai que en fait le problème que j'ai avec la spontanéité, c'est que il faut accepter que quand on fait les choses sur un coup de tête, il y a des fois ça marche et c'est merveilleux. Quand ça marche, c'est souvent ça nous mène à des choses imprévues auxquelles on n'avait pas pensé et on se dit waouh, c'est une super expérience. Mais il y a aussi des fois où, ben, parce que justement on ne s'est pas organisé, on n'a pas anticipé, et ben on ne peut pas faire ce qu'on avait prévu. Et en fonction du lieu où vous vous trouvez, et ben parfois si l'activité que vous vouliez faire un peu sur un coup de tête, et ben vous ne pouvez pas la faire. Eh ben, c'est un peu difficile de trouver autre chose à faire. Mmh. Ça dépend où vous êtes. Moi, j'ai encore une fois la chance, en tout cas pour moi, c'est une chance d'habiter à Paris. Il y a de quoi faire. On peut se trouver quelque chose à faire assez rapidement. Mais encore une fois, ça dépend aussi du moment de l'année, des jours. Voilà, il y a aller essayer de trouver une table dans un resto un peu sympa sur Paris, dans des quartiers fréquentés. Autant vous dire que c'est pas sûr que vous trouviez quelque chose de, attention j'entends, de sympa et qualitatif. Voilà, pour un prix relativement raisonnable. Après, on peut toujours bouger l'un des curseurs, mais voilà. Et moi, c'est, j'avoue que je suis pas à l'aise avec l'imprévu, avec ce côté de dernière minute. Voilà. Autant quand il n'y a pas d'enjeu... Voilà, un week-end, on a juste envie de se reposer avec grand plaisir pour se décider au dernier moment à faire quelque chose. Mais c'est vrai que sur des moments où voilà, on a envie un peu de surprendre l'autre, et je crois que c'est un peu le cas quand on fait un date avec quelqu'un. Voilà, je préfère, en tout cas si c'est moi qui l'organise, ce sera justement très organisé. Voilà, et j'apprécie en général quand la personne en face a fait cet effort-là aussi, parce que ça enlève, en tout cas pour moi, ça enlève une charge mentale. Je sais que pour certains, ça peut... L'organisation est une charge mentale. Pour moi, c'est une façon de m'apaiser l'esprit. Donc voilà, ça ne reste que ouais, mon point de vue.
Ça montre quand même aussi les efforts de l'autre personne. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est quand même creusé la tête peut-être, ou elle a cherché à trouver le bon endroit ou quelque chose qui nous ferait forcément plaisir, etc. On voit qu'il y a eu un effort, une pensée derrière. Et j'aime bien cette idée. Après, comme tu disais tout à l'heure, si là, on est l'après-midi à ne rien faire et que d'un coup, d'un seul, t'as une idée spontanée, ah bah viens, on va faire ça. Ok, pas de souci parce qu'on avait vraiment rien d'autre de prévu. Par contre, si tu sais que j'ai des choses de prévu et que là, d'un coup, tu me demandes d'être spontanée, je peux le faire quelques fois. Mais sur long terme, devoir bouger un agenda tout le temps, ouais, j'ai tendance à trouver ça assez égoïste.
Voilà pour les catégories auxquelles on a pensé. On pourrait en dire plein d'autres, je pense. Mais voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a voulu aborder. Mais dites-nous aussi hein, dans les commentaires si vous avez d'autres idées sur lesquelles on pourrait échanger tous ensemble. On va passer à la quatrième partie. Alors, la question est, qu'est-ce que tu penses des gros dates ? Quand on parle de gros dates, Natacha et moi, on pense à déjà des dates qui prennent du temps dans une journée, c'est-à-dire que c'est pas deux heures, hein. C'est vraiment des choses qui prennent du temps et qui ont un impact dans le sens où potentiellement vous allez rencontrer l'entourage de la personne en question, les amis, la famille, ça peut être aussi dans un contexte particulier.
Par exemple, une invitation à un mariage.
Voilà, ça te fait penser à quelqu'un, hein, je crois.
Ça me fait penser à la personne qui est assise à ma gauche.
Oupsie.
Dans deux semaines, j'ai un ami qui se marie, j'ai un plus un. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi ? Ça, personnellement, je considère ça comme un gros date, car tu n'es pas invité au mariage d'un type lambda. Généralement, tu es invité au mariage d'un ami ou d'un membre de ta famille. Donc, comme disait Lisa, tu vas sans doute rencontrer des gens de l'entourage proche de cette personne avec qui tu sors en rendez-vous.
Petite précision, du coup, on a toujours dépassé le premier date. Hein.
Oui.
Je pense que là, pour le coup, on est toutes les deux d'accord pour dire qu'on commence pas par ça.
Non.
Mais voilà, là, nous sommes dans l'étape où, voilà, on a rencontré la personne, ça se passe bien, et voilà, cette proposition arrive. On va vous dire chacune ce qu'on en pense, est-ce que ça nous conviendrait ou pas, dans quelles conditions. Voilà, c'est à toi, Nat.
En effet, en dehors du premier rendez-vous, si en effet cette personne me dit « Écoute, voilà, j'ai une invitation à un mariage, j'ai l'anniversaire de mon meilleur ami, j'ai tel week-end qui approche, est-ce que ça te dirait de m'accompagner ?» Dans le cadre d'une journée, moi je suis complètement pour. Si vraiment je sens que on va dans le même sens, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on est compatibles, absolument. Je t'accompagnerai à ce mariage, j'irai à l'anniversaire de ton meilleur ami. Pour ce qui est d'un week-end, je ne dors pas avec qui que ce soit avant le mariage. Voilà, oui, les gros dates, je ne suis absolument pas contre. Au contraire, je trouve que ça montre une envie d'engagement de la part de l'autre personne, car tu ne prends pas le risque de présenter n'importe qui à tes parents, normalement. Je dis bien normalement. Tu ne prends pas le risque de présenter n'importe qui à tes meilleurs amis. En tout cas, moi, je sais que le jour où j'emmène un garçon à mes meilleures copines, personnellement, pour moi, ce sont les premières à rencontrer mon futur homme, car si je n'ai pas leur aval à elles, je n'aurais même pas intérêt à aller le présenter à mes parents. Et non pas que je demande leur aval dans le sens où, d'après toi, est-ce que c'est le bon pour moi ou pas? Non. Quand je présente quelqu'un à mes meilleures copines, je leur demande « Est-ce que tu as détecté quelque chose qui ne t'a pas plu ? Est-ce que tu as vu ou entendu quelque chose que tu me dirais « Écoute, Nat, juste fais attention par rapport à ça » ou « Essaye d'en discuter avec », etc. Car c'est toujours bon d'avoir un point de vue extérieur. Quand on tombe amoureux, on peut vite devenir aveugle à certaines choses, car le prochain homme que je présente à mes parents, c'est celui qui me demandera en mariage. Donc voilà, personnellement, je ne présente pas n'importe qui à mes copines. Si qui que tu sois dans ma vie, t'as rencontré mes copines, tu es dans ma vie jusqu'au bout.
Eh ben, le message est lancé à toi, peut-être, qui nous écoutes. Voilà, sache-le. Tu sauras dans quoi tu t'engages. Qu'est-ce que je pense des gros dates? Eh ben, voilà, Natacha vous l'a dit, parce que je suis assise à sa gauche, donc c'était moi, la personne à sa gauche, au cas où c'était pas clair. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé avec mon chéri. Il m'a proposé très vite d'aller au mariage d'un de ses très proches amis. Et c'était... j'ai dit oui, mais sans hésiter, parce que je me sentais bien et en confiance, et que j'ai pas trop peur à l'idée de rencontrer beaucoup de gens que je ne connais pas au même endroit. Forcément, un peu d'appréhension, mais en tout cas, je trouvais que l'expérience était importante à vivre. Et je vais vous raconter une anecdote aussi. J'ai une copine qui est actuellement en recherche, pareil, d'un partenaire de vie, et elle passe donc par les applis de rencontre. Et elle m'a posé la question un jour, elle me dit... qu'est-ce que tu penses de rencontrer les amis de la personne alors que tu es ce qu'on appelle dans la phase de date? Donc si j'ai bien compris, parce que moi je ne l'ai pas vécu, mais voilà, c'est cette phase où vous voyez plusieurs fois suite à la discussion que vous avez pu avoir sur l'application de rencontre, jusqu'au moment où voilà, vous décidez que c'est sérieux et que c'est exclusif et que du coup vous quittez en fait l'application de rencontre pour vous consacrer à cette relation. Et en fait, quand elle m'a posé la question, c'est une amie que je connais depuis très longtemps et qui, comme moi, avait un peu, ou a un peu encore, j'ai une expérience amoureuse où je suis tombée amoureuse très jeune. Et donc, le fait que quand on tombe amoureux très jeune, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, quand on est adolescent. Et du coup, ça impose un peu des règles, notamment quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux, au début, on ne se voit pas à la maison, donc on ne se voit que l'après-midi. Et puis après, on rencontre les amis, puis après, on rencontre les parents. Enfin, voilà, il y a un peu des étapes indispensables qui, en tout cas, moi, dans l'expérience que j'ai vécue, se sont un peu mélangées ou certaines ont été un peu sautées ou ont été un peu plus rapides que ce que je pensais peut-être au départ. Mais en fait, parce que à l'âge adulte, il y a aussi d'autres barrières qui sautent. On est, on est, comme on dit, majeur et vacciné. Donc, il n'y a plus autant de contraintes que quand on est mineur, qu'on habite chez ses parents, etc., etc. Et en fait, quand elle m'a posé la question, mais c'était évident pour moi de lui dire, bien sûr, vas-y. Parce qu'en fait, je trouve ça tellement important, ces gros dates, entre guillemets. C'est une occasion aussi de voir comment est la personne en société, puisque du coup, vous allez rencontrer ses amis, en tout cas si c'est elle qui propose, mais même si vous proposez, n'hésitez pas du tout, n'hésite pas toi, si tu es en date, à proposer, si la personne, elle, l'a déjà fait, et toi, lui proposer de rencontrer tes amis. Ça permet en fait de voir comment la personne se comporte avec les autres, avec toi devant les autres.
Et très important.
Et du coup, de voir s'il y a des différences par rapport à ce qu'elle t'a dit ou ce qu'elle a fait avec toi, les moments où vous étiez dans l'intimité ou juste à deux, même en public, j'ai envie de dire. Voilà, donc moi, je suis 100% pour. J'avoue que je n'ai pas les mêmes barrières que Natacha sur le plan, on va dire, religieux. Donc moi, pour le week-end avec... avec mon chéri, on a effectivement dormi ensemble et c'était super. Et on était d'ailleurs dans un appart avec plusieurs de ses amis. Et pareil, ça a donné une autre ambiance, une autre dimension. Et je pense que c'est une des expériences qui nous a rapprochés là depuis que, depuis qu'on est ensemble, parce que c'est une relation qui est assez récente. Mais voilà, je pense que ça a été une étape de franchie. Et ça permet aussi, pour finir sur ce point-là, que ça permet d'aborder certains sujets. Ça donne en fait un prétexte à aborder certains sujets et que dire de cette merveilleuse transition vers la partie suivante, puisque la partie suivante nous amène à nous interroger sur que penses-tu des grosses conversations ? Et là, pour pareil, vous expliquer un peu le contexte avant de te donner la parole, ma chérie. Clairement, les grosses conversations, c'est des conversations qui engagent. Donc évidemment, vous lisez peut-être dans mes pensées, mais clairement, le mariage, les enfants... Mais ça peut être aussi comment tu vois la vie de couple. Voilà, il y a plusieurs modalités pour vivre une vie en couple. Ça peut être aussi des questions, je sais pas moi, que penses-tu des voyages ? Que penses-tu des animaux de compagnie ? Voilà, ça peut être ces questions, toutes ces questions un peu structurantes sur lesquelles... Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire toutes les deux, on arrive à des âges où on sait ce qu'on veut. Ouais. En tout cas, on a eu les expériences différentes, mais qui nous ont permis de... savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et surtout de se dire si je n'ai pas ce que je veux ou si mes impératifs ne sont pas comblés, et ben en fait, de toute façon, je ne serai pas heureuse, donc je ne vais pas perdre de temps avec cette personne-là. Voilà, je pense qu'on est arrivé à ce stade-là, et d'où le fait que ces conversations peuvent parfois arriver un peu vite. Oui. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses et comment tu aborderais les choses avec ton partenaire ? Encore une fois, je précise, nous avons passé le premier date, voilà, sous une petite réserve que je vous expliquerai quand ce sera mon tour. Mais en tout cas, voilà, que penses-tu de tout ça ?
Pour ma part, je suis vraiment pour. Je fais vraiment partie de ces personnes. Si lors du premier rendez-vous, tu veux me demander est-ce que toi, t'es quelqu'un qui est plutôt très famille ou pas comment tu te vois niveau famille, justement, dans 5 ans est-ce que tu te vois être maman le mariage, si tu veux avoir ces conversations dès le premier rendez-vous, il faut savoir que moi, ce ne sont pas des conversations qui me font fuir. J'ai même envie de te dire au contraire, ce sont des conversations qui me rassurent, car on peut déjà placer les bases. On peut déjà placer les bases, on peut déjà également émettre certaines barrières. Ce ne sera pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais par exemple... Ok, dans ton entourage, est-ce que tu as des amis du sexe opposé ? Ça peut être des conversations un peu lourdes, un peu gênantes, des conversations qui font un peu parfois monter le stress, on peut le dire. Mais je suis entièrement pour. Et le plus tôt, le mieux. Je fais clairement partie de ces gens-là. Le plus tôt, le mieux. Car comme a dit Lisa, en fait, on a cette chance incroyable que d'être dans des positions où on peut atteindre nos objectifs si besoin seul. C'est une possibilité. Donc en fait, si ta présence dans ma vie ne va rien changer, malheureusement, pour toi comme pour moi, ce sera une perte de temps. Auquel cas, on en arrêtera là. Et c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de mauvais sentiments, il n'y a rien de tout ça, c'est pas grave. Il y a des gens, ils sont dans notre vie pour une saison, il y a des gens, ils sont dans notre vie pour la vie. Et je trouve que ces grosses conversations sont le filtre par lequel vont passer les relations saisonnières au travers, tout simplement.
Eh ben, je suis de la même team, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations de cet ordre-là au premier date où, encore une fois, comme je vous dis, j'ai eu, dans mes expériences, j'ai plutôt rencontré des personnes, soit au travail, soit dans le cadre d'activités que je faisais. Donc, c'est des gens qui, pendant une période, j'étais avec eux, pas quotidiennement, enfin, pour le travail, si, mais même pour les activités de manière assez régulière et assez fréquente sur une période donnée. Et donc, c'est des conversations qui pouvaient même venir, j'ai envie de dire, même avant le premier date. C'est-à-dire qu'on est juste en train de parler et comment tu vois les choses. Et Nat, hier, tu m'as dit un truc qui m'a fait tilter et je voudrais le partager avec vous. En gros, ces conversations, elles permettent surtout... Enfin, moi, je trouve ça important de les aborder au premier date parce que, en fait, on ne demande pas à l'autre personne « Est-ce que tu veux te marier, avoir des enfants, avoir un chien avec moi ?» Ce n'est pas la question. La question, c'est « Qu'est-ce que toi, tu veux dans ta vie, avec ou sans moi ?» Et ça, c'est quelque chose que, je pense, il ne faut pas spécialement attendre de se connaître depuis très longtemps, d'avoir développé un attachement à la personne parce que, avec l'attachement... vient, tout à l'heure tu disais quand on est amoureux on est un peu aveuglé, mais avec l'attachement vient aussi des... on s'attache aussi à une image qu'on se fait de la personne, au projet qu'on crée un peu secrètement dans sa tête, parce que voilà, je pense que même les personnes qui me disent non mais moi je vis au jour le jour, et ben en fait peut-être qu'ils se projettent justement à vivre au jour le jour avec telle et telle personne, et ben le jour où ils se rendront compte que la personne en face d'eux elle a peut-être besoin d'un peu plus de projection, et ça va casser aussi ce fantasme un peu qui était là. Et c'est pour ça que moi, quand des fois on me dit « Ah ouais, t'as parlé de ça dès le premier date, mais c'est chaud et tout », en fait, moi, je dis aux gens « Non, c'est parce que j'ai pas demandé à la personne « Est-ce que tu veux faire ça avec moi ?» Mais est-ce que toi aussi, tu veux faire ça ? Parce que moi, je sais ce que je veux, moi, je sais où je veux aller. Il y a des choses sur lesquelles, dans les grosses conversations, je suis pas tout à fait sûre. Par exemple, autant moi je suis quelqu'un qui suis assez certaine de vouloir me marier. Depuis que je suis toute petite, j'ai un classeur avec des images de robes de mariée que j'ai trouvées sur internet quand j'étais petite, des idées de décoration de la salle. Enfin voilà, le mariage c'est un rêve de princesse pour moi, clairement. Autant les enfants, c'est un sujet qui encore aujourd'hui est sujet de doute, donc ça veut pas dire qu'on attend que la personne, elle signe un papier, hein. On n'est pas sur un contrat, on n'est pas sur un engagement, oui, mais tu m'avais dit que non, on est tous humains, on a tous le droit d'avoir des doutes, on a tous le droit de changer d'avis, mais voilà, histoire de dire, voilà, moi, à l'instant T, ce que je veux, et je trouve ça important de l'aborder, moi, je te rejoins sur le côté le dire le plus rapidement possible, ça permet de poser un certain nombre de choses et de savoir où on va. Et puis, qui sait, le jour où votre avis évolue, change, vous vous en rendez compte, vous vous dites, tiens, j'ai repensé à ça. Et finalement, ce que je t'ai dit, c'est plus exactement comme ça que je pense. Ce sera toujours temps d'en reparler plus tard.
Absolument. Voilà. L'honnêteté, la communication.
Exactement. Mais ce sera un autre sujet de podcast. Mais voilà, je trouve ça important d'aborder ces sujets-là et... encore une fois, de ne pas les aborder, de « est-ce qu'on veut ça tous les deux ?» Attends, on ne se connaît pas encore, on n'est pas... Enfin, ou même si on se connaît, c'est le début, donc rien n'est certain. Et il y a aussi un côté, une part un peu magique là-dedans, de voir ce que la relation va donner, de se laisser le temps, d'apprendre à se faire confiance. C'est des étapes qui sont nécessaires. Mais au moins savoir si on a... puis une feuille de route commune, parce que... Et ça ne fait pas de quelqu'un une mauvaise personne, qu'elle ait des envies différentes des vôtres. Ça fait juste d'elle une personne unique et différente. Et peut-être que ça ne matchera pas du coup ensemble pour ces raisons-là, mais ça n'en fera pas une mauvaise personne. Par contre, vaut mieux le savoir tout de suite parce que après, avec l'attachement, avec les sentiments, on peut avoir la sensation que la personne n'a pas été honnête avec nous, alors que peut-être juste elle n'était pas apte à vous le dire, elle n'avait pas conscience de... Et du coup, avoir ce genre de conversation, ça permet juste de... aussi peut-être de se dire, écoute, pour l'instant, je ne sais pas, mais je sais que je suis bien avec toi. Et moi, je sais que quelqu'un qui m'aurait dit ça, moi, ça n'a pas été avec mon chéri, on a eu ces conversations déjà et on était sur la même longueur d'onde globalement, donc c'était chouette. Mais quelqu'un qui me dirait, écoute, pour l'instant, je ne sais pas, mais je vais y réfléchir, je pense que ça m'aurait plu aussi. Voilà, de savoir que la personne ne sait pas, mais du coup, vous savez dans quoi vous vous engagez. Et je trouve ça important. En fait, c'est surtout ça. C'est de savoir dans quoi vous vous engagez. Parce qu'après, soit vous pouvez dire, écoute, si tu sais pas, moi, je sais. Et moi, je sais où j'ai envie d'aller. J'ai pas envie de prendre le risque que toi, tu saches pas et que le jour où tu saches, ça aille pas dans le même sens. C'est possible. Mais au moins, la personne a été honnête. Et du coup, si vous vous séparez, encore une fois, il n'y a pas de cris et de sang et de larmes. On va dire ça comme ça. Par contre, si vous abordez pas ce sujet parce que vous avez peur de la réponse de la personne, y a de fortes chances que... Alors, au mieux, ça marche et finalement, tout le monde est content. Au pire, ben, y a l'attachement, le temps qui est passé, et surtout les fantasmes qu'on s'est fait. Et ça, la personne, elle y peut rien. Et
après, il y a de la rancœur aussi qui se crée, etc. Et en plus de ça, ces grosses conversations sont un élément clé pour voir comment la personne communique. La communication, sans elle, aucune relation ne tient. Et aussi, son honnêteté. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, très bons communicants par message, SMS, etc. Et une fois en face, qui ont une peur bleue du conflit. Alors, non pas qu'il faut tout mener au conflit, pas du tout. Mais le conflit, la confrontation, la réalité de certaines choses, il y a des gens qui, arrivés en face, n'arrivent plus à trouver leurs mots. Et ça, pour certaines personnes, comme par exemple moi, ça peut être une difficulté. Alors, je suis bonne communicante par message aussi, mais je préfère de loin la communication en personne. En plus de ça, je fais partie également de ces gens qui pensent que les premières fois sont annonciatrices du reste. Ton premier conflit, comment a-t-il été géré? Ta première conversation sur tel sujet, comment a-t-elle été gérée? Donc, je pense très sincèrement que d'avoir les grosses conversations le plus tôt possible, ça nous permet de voir comment cette personne communique, face à quel type d'honnêteté on est. Et du coup, quelle est la suite à partir de là, finalement? Est-ce que toi et moi, on est capable de communiquer correctement sur un sujet posé? Parce que si un jour, on doit communiquer malheureusement sur un sujet qui n'est pas posé, s'il y a conflit, s'il y a mauvaise entente, comment est-ce qu'on va gérer? Les grosses conversations, c'est pas juste, comme on disait, est-ce que déjà tu veux te marier? Pas nécessairement avec moi, mais déjà, est-ce que tu veux te marier? Comment cette personne répond à cette question? Quel est son style de communication? Je trouve ça hyper important.
Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là. Yes. Il nous en reste 3 à aborder avant la fin de ce podcast. Ça passe vite et pourtant, ça fait déjà 1 heure qu'on communique tous ensemble. Je trouve ça génial. Que penses-tu des rapprochements? Je pense qu'on a une petite idée, mais voilà, je trouvais ça important d'aborder ce sujet-là.
Alors, du coup, étant quelqu'un qui attend le mariage, bien évidemment que pour ma part, les rapprochements avant le mariage, j'ai presque envie de te dire, il n'y a pas. Je n'ai rien contre un câlin, je n'ai rien contre un bisou, mais pour ma part, ça va s'arrêter là. On peut se tenir la main, pareil, il n'y a pas de souci. Tout comme, c'est quelque chose de très simple, hein, mais toi et moi, on ne sera pas dans ma chambre à porte fermée. Malheureusement, je fais partie de ces gens qui, aujourd'hui, ont trop de bagages. La tentation serait juste trop grande. Donc voilà, pour ma part, on restera sur quelque chose de gentil et mignon. Après le mariage, j'ai plus rien contre les rapprochements.
Nous ne sommes pas étonnés, je crois, au regard de ce que tu nous as dit jusque-là, donc c'est très cohérent. Alors, pour ma part, je suis beaucoup plus ouverte au rapprochement, on va dire. Mais s'il y a une chose qui est certaine, et là je vais enfoncer une grande porte ouverte, merci Captain Obvious, comme on dit, mais il ne faut pas que ce soit forcé, il n'y a pas de bon moment. Le moment idéal n'existe pas.
Eh non.
Voilà, enfin en tout cas moi je pense, alors pour ma part avec ce que je vous ai dit, je n'aurai jamais le merveilleux coucher de soleil face à la tour Eiffel où il n'y aura personne qui passera à ce moment-là. Voilà, moi mon premier baiser avec mon chéri s'est fait à la gare Saint-Lazare. Et pas à la gare Saint-Lazare, devant la gare Saint-Lazare dans la rue, non, dans les couloirs du métro. Et pourtant, je dois vous le dire, je passe très souvent à cet endroit pour passer du temps quand je vais chez lui et que lui vient chez moi. Mais en tout cas, moi, quand j'y vais et que je vais chez lui après une journée de travail ou même le week-end, je passe très souvent à cet endroit. Et je me dis à chaque fois qu'il n'y aurait pas eu meilleur endroit. Et pourtant, c'était dans les couloirs du métro, un soir après un spectacle. Enfin, voilà, on n'était pas du tout apprêtés. Voilà, autant vous dire que on sortait d'une journée de spectacle. Donc je pense qu'on rêvait tous les deux d'une douche, pour être très honnête. Ce n'était pas après un date. Enfin, plus ou moins si, parce que c'était le soir du premier date, mais entre-temps, on avait fait le spectacle. Donc c'était après, pour moi, une journée de travail, une soirée de spectacle. Voilà. Bref, on n'était pas apprêtés, on ne s'était pas dit, tiens, on va s'embrasser à ce moment-là.
Mais il n'y a rien comme l'instant présent.
Voilà. Et je dois le dire que quand j'ai compris que ça allait arriver, au départ, j'étais un peu, ah, t'es sûre, maintenant, ici? Et en fait, aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a rien de mieux que ça. Et voilà, je sais que j'ai beaucoup entendu de gens, non, mais j'attends le bon moment, j'attends le date idéal, j'attends. Et en fait, moi, le seul conseil que je dirais, c'est n'attendez pas et ne forcez rien. Dieu sait qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir dire ça et comprendre ce que ça implique de dire ça, parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez, je vous l'ai dit, excessif. Et il faut savoir aussi une chose sur moi, c'est que je suis amoureuse de l'idée d'aimer quelqu'un. C'est-à-dire que je pense que ma période de célibat, du coup, depuis septembre 2023 jusqu'à mai 2025, donc voilà, un peu moins de 2 ans, mais voilà, une bonne année et demie, je pense que ça a été la période où je me suis sentie le plus vide parce que je n'avais pas la possibilité d'aimer vraiment quelqu'un. Je ne peux pas dire que c'est une période où j'ai été seule parce que il y a eu des choses qui sont passées dans ma vie, des personnes qui sont passées dans ma vie pour une saison, pour quelques mois, pour quelques semaines et qui sont ressorties aussi vite. Et du coup, j'ai pas eu le temps ni l'opportunité de créer ce que moi j'aime dans une relation, c'est-à-dire donner une part de soi. Et là, j'ai l'occasion de le faire et j'en suis très heureuse et très reconnaissante chaque jour depuis le début de cette relation. Mais voilà, j'ai été quelqu'un qui a pas forcé dans le sens où voilà, je me suis jamais imposée à quelqu'un, mais j'ai pas peur d'aller parler, d'aller aborder la personne, de trouver n'importe quelle excuse pour que on commence à discuter, pour qu'on se rapproche, pour qu'on se voit. Voilà, je suis très moteur dans ce genre de moment et
il y a pas de jeu. Il n'y a pas de « ah, je vais attendre tant de temps parce qu'il m'a envoyé un message, blabla » ou « ah bah non, sinon il va penser que je suis déjà trop attachée ou patati ou patata ». Non, en fait, comme Lisa avait dit un peu plus tôt dans le podcast, on sait ce qu'on veut. On sait aussi ce qu'on ne veut pas. Et alors les jeux, non merci. Et non merci. Et donc là également revient le sujet de la communication. Mais en fait, si on veut quelque chose, on va le chercher. Tout simplement. Et alors Lisa, ça là-dessus, franchement, si on a une pour montrer l'exemple, c'est elle.
C'est gentil. Mais je me rends compte aussi, et c'est un peu ce que j'ai essayé d'appliquer avec mon chéri, et du coup, je me rends compte que ça a marché. J'ai beaucoup parlé de toi, chéri, dans ce podcast, je tiens à le dire. Mais je me suis imposé une règle quand on s'est rencontrés. Je me suis dit, surtout, tu forces rien. Et justement, tu forces rien. Pas que j'ai déjà forcé avec quelqu'un de manière excessive, mais je ne voulais pas être, encore une fois, moteur si je sentais qu'en face, la personne n'était pas aussi motrice dans l'envie. Je ne sais pas si elle se dit motrice du coup, mais voilà, si elle n'avait pas envie non plus. Parce que c'est vrai que parfois, je peux prendre des initiatives alors qu'en face, je n'ai pas forcément la réception. Je me dis, bah, c'est pas grave, ça viendra après. Et des fois, ça vient, des fois, ça ne vient pas.
Oui, mais c'est vrai que dans une relation, c'est 50-50. S'il y a 50% d'efforts d'un côté, il doit y avoir 50% d'efforts de l'autre côté.
C'est ça. Et là j'ai eu la chance. Clairement, mon chéri avait reçu l'information qu'il me plaisait, que voilà, il avait une touche, comme on dit. En tout cas, comme la personne à qui j'ai demandé de lui envoyer un message lui a dit. Donc, il savait qu'il pouvait venir me parler en toute confiance. Et c'est aussi pour ça que moi, je me suis dit, du coup, le moment où il fallait qu'il vienne me parler, je ne voulais pas encore une fois être celle qui fait le premier pas. Je l'ai laissé venir. Et je pense que cette réflexion-là, ce temps-là, m'a permis d'aborder la relation plus sainement parce que je me disais, au moins, c'est lui qui est venu. Enfin, j'ai eu une réponse, en fait. C'est pas moi qui ai tout fait pour qu'au final, 3 semaines après, ça se casse la figure parce qu'au moment où moi, j'arrête de faire les rapprochements, parce que c'est le sujet de notre catégorie ici, et ben en fait, lui, il ne vienne pas parce que c'est moi qui ai tout fait jusque-là. Et là, c'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose d'équilibré, quelque chose de réciproque. Donc, ça m'a pris du temps. Et pour conclure cette partie, je suis carrément pour les rapprochements. Il n'y a pas de bon moment pour le faire. Juste ne pas forcer, en avoir envie. Au moins, de votre côté, être sûr que vous en avez envie. Mmh. Et attendre aussi en retour qu'il y ait une réponse, évidemment. Mais voilà, se faire aussi un peu confiance. Voilà, on arrive à l'avant-dernière partie de ce podcast. Est-ce que, à ton avis, les attentions et les dates ont une date d'expiration ?
Non, absolument pas. Mes parents sont mariés depuis 34 ans et ils vont encore à des dates. Ma mère se fait encore courtisée. Mon père est l'homme le plus attentionné que je connaisse. J'ai des parents qui ont été l'image du mariage. Et pour voir mon père tous les jours avec ma mère, ça me permet de garder ma barre très élevée quant à mon futur mari. Je suis vraiment désolée. Mais non, il n'y a pas de date d'expiration. Et non, ça ne s'arrête pas. Je vais prendre un exemple où ça peut être parfois un tout petit peu plus compliqué quand on a des chamboulements de vie. Par exemple, on vient d'avoir un enfant. C'est un nouveau-né. Le nouveau-né a fortement besoin de la maman. Il est difficile, en effet, de laisser le nouveau-né aux grands-parents, par exemple, pour aller à un date. Mais il ne faut pas s'oublier. Quelles étaient les petites intentions qu'on avait l'un envers l'autre avant d'avoir l'enfant ? Que je peux faire aujourd'hui pour montrer à mon partenaire qu'on est toujours là, ensemble, à deux. Et en fait, c'est pour la vie. Je fais partie de ces gens pour qui le divorce n'est en aucun cas une option. Donc, pour ça, il faut entretenir cette flamme. Et c'est donc un non catégorique. Les dates et les signes d'affection, les attentions, n'ont pas de date d'expiration.
Eh bien, encore une fois, on est dans la même team. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Après, on met un petit disclaimer ici. On n'a pas d'enfant. Et donc, on n'a pas vécu ce moment où l'enfant prend toute la place. Et voilà, c'est pas encore une fois ni une critique, ni un jugement. Enfin, voilà, c'est juste nous, notre avis, ce qu'on en pense et ce qu'on aimerait faire. C'est un peu une promesse qu'on se fait aussi à nous-mêmes, je pense, ce podcast. Ce podcast nous permet aussi de documenter nos réflexions communes. Et voilà, de se dire, voilà la promesse qu'on se fait pour l'avenir en tant que femme, en tant que future épouse, future mère, peut-être. Voilà, donc en tout cas, pas de jugement par rapport à ici. Non. Mais par contre, on est toujours preneur à toi qui nous écoutes. Si tu as une expérience à partager, que tu as envie de partager ici, on est très preneuse de s'enrichir de tout ce que vous pourrez nous apporter dans les Absolument. Commentaires. Let's go. Donc du coup, je suis dans la même équipe. Je pense que ça n'a pas de date de péremption. Je pense qu'il y a des choses simples à faire. Envoyer un message quand on n'est pas ensemble, hein, évidemment, mais même. Hein. Moi, je sais que je suis très friande de laisser un petit mot sur la table quand je pars de la maison. Voilà, c'est quelque chose qui ne prend pas un temps monstrueux. Voilà, je peux comprendre qu'avec le temps qui passe, avec la vie active que nous avons, que nous connaissons tous et toutes, plus ou moins, il peut y avoir des choses qui s'arrêtent, des choses qui changent. Évidemment, on ne fait pas les mêmes choses quand on vient de rencontrer la personne et quand ça fait 10 ans qu'on est avec elle. Par contre, moi, j'envoie beaucoup une grosse pensée à tous mes collègues. Je suis dans un travail. Donc, je travaille pour le ministère de la Culture, je suis fonctionnaire, et plus spécifiquement au service juridique. Et je dois dire que je suis entourée, depuis que je suis arrivée au ministère, de gens heureux. En tout cas, de gens, ça fait quasiment 2 ans que je suis là, je les vois arriver au travail, toujours égaux à eux-mêmes, le sourire aux lèvres, l'envie de passer des bons moments. Enfin, bien sûr qu'on a pu me dire, mais tu sais, Elisa, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer, ce qui est vrai. Mais je suis quelqu'un qui suis intimement persuadée que si ça se passe mal, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Et les collègues sont quand même des gens avec qui on passe
5 jours dans la semaine. Hein.
Et beaucoup de temps. Voilà, parce qu'on est la majorité de notre journée de travail au travail.
Il peut arriver parfois qu'on voit plus nos collègues que certains membres de notre famille.
C'est vrai. Et donc, je me dis, si ça se passait vraiment très très mal pour quelqu'un, non pas que je me sente assez proche de la personne pour qu'elle vienne m'en parler, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, ça se reflèterait. Ce qui n'est pas le cas. Alors, j'ai pas la prétention de connaître la vie intime de mes collègues. En revanche, ce dont ils me parlent, eh ben, c'est ces relations qui sont là depuis très longtemps. Certains ont des enfants, certains sont mariés, d'autres pas. Certains sont ensemble depuis très longtemps et ils vont se marier ou enfin ils décident d'avoir un enfant parce que ça fait X temps qu'ils sont ensemble et que c'est le moment maintenant. Et pourquoi ils en arrivent là aujourd'hui ? Je me dis que c'est aussi parce qu'ils ont entretenu cette relation. Enfin, voilà, j'ai des gens autour de moi qui me parlent de leur compagnon, mais comme si c'était le début d'une histoire, quoi. Enfin, et je trouve ça merveilleux. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont leur petit moment à eux, leur quotidien qu'ils viennent pimper de petites soirées à deux, de petites habitudes, d'autres soirées. Voilà, peut-être qu'il y en a certains qui ont moins besoin de ça, mais qui ont vraiment conscience de la valeur de leur relation. Et je trouve ça beau. Et donc, clairement, il n'y a pas de date d'expiration aux dates ou aux petites attentions. Après, elles évoluent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de façons... On a tous des langages de l'amour différents, ça aussi. Mmh, ça pourrait être un autre sujet de podcast. On a tous des attentes et des envies différentes, mais il y a aussi énormément de façons de dire à l'autre qu'on pense à lui, de dire à l'autre qu'il a une place unique dans notre vie. Il y a plein de façons de le faire qui prennent assez peu de temps ou assez peu d'énergie et pas d'argent du tout. Et je trouve ça important de s'en rappeler, de se dire bah, c'est peut-être pas grand-chose ou oh, il le verra pas, mais en fait, peut-être que si. Voilà. Et bon, on pourrait redire qu'il suffit de communiquer, mais c'est pas le sujet. Donc voilà. Mais en tout cas, y penser, et même si on n'a pas envie ou on peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps de faire de grandes choses comme on voit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, de grands voyages, etc.
Il n'y a pas besoin de tout ça.
C'est pas grave. C'est juste une petite attention, un petit message.
Montrer qu'on est présent.
Exactement. C'est... Voilà, c'est possible et si ça se fait pas pendant un temps, c'est pas grave, mais essayez de se rappeler que être à deux, c'est un choix.
Ouais. Ouais, ouais.
Qui n'est tous pas simple.
Jours, c'est un choix de tous les jours.
Et ce sera aussi un autre sujet de podcast. On vous raconte tout le programme hein, de l'année dans ce podcast. Mmh. Mais voilà, c'est à notre sens, je crois, la clé de la réussite.
Ouais, ouais.
Et absolument. On va conclure ce podcast par une dernière partie. Enfin,
oui.
Raconte-nous ton date idéal. Nous avons dépassé le premier date, ça se passe vraiment bien. Et donc, tout est permis. The date, raconte-nous.
Eh bien, comme tu l'as dit, je n'ai absolument pas besoin de quelque chose d'extravagant, de quelque chose de cher, de quelque chose de « waouh ». J'ai travaillé 6 ans et demi dans le luxe. J'en ai vu des choses waouh et ça m'a pas waouh. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste besoin d'authenticité et de petits signes d'affection et d'attention. Quelque chose d'aussi simple que aller faire une balade dans notre QG. Lisa sait de quoi je parle. C'est un endroit que je souhaite garder que pour nous. Donc vous l'entendrez comme étant notre QG avec un homme qui n'a pas peur de danser avec moi en public. Un homme qui, par exemple, si je lui dis que voilà, j'ai pas passé la plus merveilleuse des journées, ça peut arriver qu'on ait une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, que j'arrive, simplement que le dîner soit fait, une petite musique d'ambiance, il me prend dans ses bras, il me fait simplement oublier les raisons pour lesquelles ça n'allait pas. Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose, que ce soit un rendez-vous dans un café ou une balade dans un parc, un pique-nique... Tout comme je souhaite partager ce que j'aime et qui je suis avec mon partenaire, j'aimerais vraiment qu'il en souhaite et qu'il en fasse tout autant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une question d'authenticité, d'attention, d'affection. Ce n'est pas à propos de qu'est-ce qu'on fait, mais plutôt à propos de avec qui on le fait. C'est... Même si c'est juste une promenade, une petite attention. En fait... Je trouve sincèrement que la personne avec qui on va partager ce rendez-vous a réellement l'impact de faire que, oui ou non, on va passer un rendez-vous idéal ou pas. Et ça, peu importe l'activité qu'on fait ou pas. Et voilà.
À bon entendeur, chers auditeurs. Et pour ma part, mon date idéal, alors j'avoue, je suis attachée au Princess Treatment. Voilà, au traitement
je
de princesse.
Je ne dis pas non à une boisson offerte, hein, bien évidemment.
Non, mais j'avoue que les fleurs, ça marche.
Ça marche très bien, même les fleurs et les chocolats, voilà. On aime.
Attention, je ne parle pas d'un bouquet à des 1000 et des 100 avec non. Des fleurs très rares. Hein. Voilà, je ne parle pas de ça. Enfin, en fait, même s'il n'y a pas, ce n'est pas très grave, c'est juste... passe l'info comme ça, à bon entendeur encore une fois, mais je dois dire que me concernant jusque-là, je j'ai pas de, je suis comblée. Voilà, donc voilà, j'ai cette chance-là et encore une fois, j'en suis reconnaissante chaque jour qui passe. Mais voilà, je suis pas contre ça, mais je pense que ouais, mon date idéal, c'est un dîner à l'effet maison, mais parce qu'encore une fois, j'ai la chance d'être accompagnée de quelqu'un qui cuisine vraiment très bien. Ouh. Voilà. donc voilà, mais cuisiner à deux, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Avec un verre de vin, je dis pas non, parce que le vin, c'est quand même un trésor du patrimoine français auquel je suis très attachée. Pourrait être un sujet de podcast aussi à l'occasion. Mais pas le vin, hein, le patrimoine français, en général. Mais voilà, effectivement, petite musique. Comme je vous l'ai dit, je suis artiste et chanteuse. Et voilà, chanter, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc voilà. Pourquoi pas chanter un peu, danser aussi. Et j'ai la chance, encore une fois, d'avoir un chéri qui sait danser. Donc on l'a déjà fait et je lui dis beaucoup à quel point le plus important c'est qu'il continue de danser avec moi dans le jardin. Donc oui. Je le dis là aussi parce que c'est hyper important. Voilà, et juste avoir le temps de papoter de tout, de rien, parfois de la journée. Effectivement, c'est déjà arrivé de rentrer, que la journée soit pas hyper bien passée d'un côté ou de l'autre, et juste de aussi pouvoir en parler, c'est-à-dire qu'au-delà de l'oublier, c'est aussi pouvoir poser les cartes sur la table et dire voilà ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que t'en penses. Voilà. Et puis aussi arriver à parler d'autre chose, se rappeler de ce qui est vraiment important et la construction de cette histoire à deux. Mmh. Et c'est important. Et puis peut-être à un moment arrêter de parler pour regarder un film, une série. J'avoue que voilà, c'est des petites choses que j'aime bien faire. Voilà, et que les dates après le premier date soient aussi une façon de créer des petites habitudes en commun.
Oui.
Voilà.
Une petite routine de couple.
Voilà. Et j'avoue que ça, j'y suis particulièrement attachée. Voilà, je suis ravie que je puisse commencer à mettre ces choses-là en place. Et je te souhaite, ma chérie, que ça t'arrive. Donc voilà, à vous tous qui nous écoutez, on espère vraiment, je pense qu'on arrive au bout du podcast.
Et oui, ça y est, au bout d'une heure et demie.
Voilà, on vous l'avait dit, on adore papoter.
Ouais.
Vous êtes au milieu d'une conversation entre copines.
Oui, et vous êtes les bienvenus.
Exactement, donc voilà, on espère encore une fois que ce podcast vous a plu. En accord avec nos objectifs, qu'il vous aura aidé, peut-être toi qui ne sais pas comment dater ton copain ou ta copine.
Mmh. Peut-être toi qui as besoin d'une idée.
Ouais.
Et qui, sur le coup, n'a pas le plus grand des budgets. Sache qu'une simple attention, ça fait toujours plaisir. Un pique-nique dans le parc, c'est très bien.
Juste une balade dans le parc.
Ouais.
Dans un parc.
Petite balade à vélo.
Voilà. En tout cas, on espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être fait rire à certains moments.
Mmh.
C'était important pour nous d'aborder ce sujet-là. C'est un sujet qui nous tenait à cœur.
Oui.
Et voilà, dites-nous, on vous l'a dit plusieurs fois dans le podcast, mais vraiment, ça nous tient à cœur de voir dans les commentaires si vous souhaitez nous partager vos idées de date, pourquoi pas, vos expériences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. On lira.
On apprend des erreurs des autres aussi.
Ouais, puis on lira tout ça avec beaucoup d'attention. On s'enrichira clairement de ces expériences-là, autant qu'on espère vous avoir apporté une petite source d'enrichissement en nous écoutant. Bah, que vous dire d'autre si ce n'est à très vite pour un nouvel épisode de Hey Honey.
Oui.
Et on va conclure là.
Ouais.
Sur ce,
bye
guys!
Bye bye!